Et au sommaire de ce dernier club de la Terre au carré de la saison, il sera question aujourd'hui de ce rapport sévère du Haut Conseil sur le climat qui vient de paraître. Nous parlerons de la longévité du sélacanthe, ce poisson mythique et préhistorique. Et puis enfin, nous écouterons la musique des plantes avec un duo de botanistes. Et pour parler de tous ces sujets, eh bien nous sommes en studio avec la climatologue Corinne Le Quéré. Bonjour.
Bonjour.
Également Renan Moinet et Thomas Coccini du duo La Botanique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et en duplex, je salue les biologistes Marc Hervin et Kélik Mahé. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et pour discuter en climat, sélacanthe et botanique, eh bien vous nous rejoignez, amis auditrices et auditeurs, avec vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr, le mot-clé l'attaque, et bonjour Camille Cronier.
Et bonjour tout le monde, et comme tous les vendredis, ce dernier vendredi ouais. aussi, on va écouter le dernier épisode, enfin un extrait du dernier épisode du podcast Olma. Il est question de microbes cette semaine, et puis d'ici 15h, eh bien on va vous offrir un petit bain de nature, 2 minutes 30 de pure nature dans l'univers sonore de l'audio-naturaliste Fernand de Roussen.
Voilà pour le sommaire de l'émission. Réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier et Anna Massardier, avec à la technique Anne-Laure Cochet.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Et on va commencer avec un premier tour de table. Corinne Le Quéré, cette semaine, donc, le Haut Conseil pour le climat a publié son troisième rapport annuel. Et comme d'ailleurs pour vos précédents rapports, eh bien, vous avez eu la dent dure sur les politiques publiques de lutte contre le changement climatique en France. Si on devait donner, tiens, une note entre 1 et 10 pour qualifier l'action climatique du gouvernement, on donnerait combien ?
Ah, oh, ça, allez. C'est trop. Non, c'est trop difficile. Mais je peux dire qu'il y a eu des améliorations cette année. Donc, je vais vous en parler, mais ouais. on n'est pas au bon niveau bon. Encore.
On écrirait dans la marge insuffisant
hein, oui, voilà, sur le cahier. Oui, voilà, peut mieux faire. Voilà.
Marc Herbin, Kélik Mahé, on va parler d'un poisson mythique, le sélacanthe. Marc Herbin, la question de l'âge de ce poisson, ça vous taraudait depuis un moment, je crois hein.
Depuis très 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 longtemps en fait, parce que c'est un poisson qui est assez énigmatique, puisque en fait comme il vit dans des eaux très profondes, qu'il est nocturne et puis que pendant la journée bah, il est dans des grottes où il attend la nuit pour ressortir, bah, on connaît quasiment rien de sa vie. Ouais. Même si on connaît bien son anatomie, sa vie, on connaissait absolument pas ni sa longévité, ni le temps de la gestation des femelles.
Et donc, grâce à votre camarade Kélik Mahé, qui est avec nous également en ligne, on a, Kélik Mahé, enfin la réponse à cette question de la longévité ?
Oui, alors on a la réponse parce qu'on allait regarder des écailles de très très près. Et oui, maintenant on a la réponse avec une centaine d'années pour la longévité du sélacanthe.
Un beau centenaire dont on parlera avec vous dans la deuxième partie. Et puis bienvenue aux deux Nantais du duo La Botanique. Les Nantais sont toujours bien reçus ici dans la Terre au Carré. On va parler de votre album Expression Végétale qui paraît entièrement consacré donc à des plantes. Vous êtes agronome, tous les deux fous de musique électronique, de rap. Bah, vous avez tout combiné en fait hein, finalement, la botanique et la musique.
Oui, on a accepté notre ADN, si je puis dire, qui est vraiment à la fois empreint de science et de musique.
Ouais, et c'est Renan qui parlait. Thomas, donc ça y est, c'est parti là pour la tournée des Jardins des Plantes.
Ça y est, ça a commencé déjà début juin. On raconte l'histoire de plantes en chansons dans les parcs et les jardins de France.
Ouais, et votre tenue de scène, c'est une tenue de jardinier, donc on peut le dire comme ça.
C'est un verre de travail, exactement.
Ah, voilà. Et ben vous pourrez voir les images parce qu'on a tourné une petite vidéo et on les entendra tout à l'heure en live avec vos plantes et vos instruments qui sont prêts pour la dernière séquence. On aura même une petite surprise pour vous, vous verrez tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour le club. Bienvenue à toutes et à tous, vous nous rejoignez avec vos messages.
Souvenirs s'effacent comme la pluie au rythme des essuie-glaces. Et pas dans le...
les jolies choses. C'était Polo et Pan sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Bon, alors cette année, pour Noël, nous avons décidé de faire un Noël éthique et responsable.
Et écologique.
Écologique, ça veut dire quoi? Pas de grands repas et pas de cadeaux là, fabriqués en Chine.
Et un seul cadeau de Noël par personne.
Un cadeau responsable dans un emballage responsable, précédé d'un dîner...
Responsable.
D'un dîner sobre.
Sobre, ça veut dire pas d'alcool?
Bah, bien sûr que si. On pourra boire des verres biodynamiques sans sulfite qui donnent pas du tout mal à la tête.
Un dîner composé d'aliments de proximité produits dans les fermes des environs et limités en viande.
C'est la fête, on va bien s'amuser. Hein.
Ouais. Tu crois qu'on peut s'amuser quand c'est la fin du monde?
Mais oui, Christophe. On s'amuse pas quand c'est la fin du monde.
Voilà, Corinne Le Carré, c'est une petite introduction, histoire de conjurer le mauvais sort, hein, pour parler évidemment de ce rapport que vous publiez avec le Haut Conseil pour le Climat, vous qui êtes climatologue et présidente de ce Haut Conseil, conseil qui a été créé, on le rappelle, à la demande même du président de la République en 2019, instance indépendante, mais avec des rapports donc réguliers pour faire état justement des luttes contre le changement climatique. Un mot d'abord, vous qui êtes franco-canadienne, sur la situation justement dans l'ouest du Canada, on en parlait encore tout à l'heure dans les infos, ces températures qui ont sidéré tout le monde là cette semaine.
Oui, absolument. Donc les changements climatiques, là, vraiment, on commence à les voir sortir clairement de la variabilité naturelle et il ne faut pas se surprendre, il ne faut pas être surpris de voir ces extrêmes qui ressortent. En fait, là, on parle du Canada, mais lors de notre premier rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat, il avait fait 46 degrés Celsius au sud de la France avec une grosse vague de chaleur en juin. Donc il y a des impacts climatiques que, en fait, deux tiers des Français, on le dit dans notre rapport, sont très fortement
impacté déjà.
Affectés par le réchauffement climatique.
Ça doit nous dire quoi, au fond, ces épisodes de chaleur à répétition un peu partout sur le globe là? C'est un,
c'est un signal d'alerte, mais on en a déjà eu des signaux d'alerte. Donc là, vraiment, il est temps de réagir.
Oui, mais on dit ça tout
agir
le temps, en fait.
Agir et réagir.
On dit ça tout le temps.
On dit ça tout le temps, exactement.
Il est temps, quand est-ce que c'est ce moment-là? Parce que même l'année dernière, vous aviez fait un discours au moment de la pandémie en disant « il y a une urgence sanitaire, évidemment, mais il y a aussi une urgence climatique ». C'était il y a déjà plus d'un an. Et là, vous êtes encore en train de dire « il est temps ». Est-ce que même vous-même, vous ne désespérez pas un petit peu?
Ben non, je désespère pas, parce que chaque année, on avance un peu quand même. Ouais. Et là, du coup, en fait... Cette année, il y a la COP26, il y a cette grosse conférence à la fin de l'année. Il y a plein de pays qui ont des objectifs de neutralité comme la carbone comme la France. Et maintenant, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Mmh. Et en plus, on sait quoi faire. On sait comment répondre au réchauffement climatique. Et du coup, il s'agit de vraiment... avoir la bonne ambition de piloter pour le gouvernement, pour le Premier ministre, de piloter cette stratégie nationale bas carbone que l'on a déjà.
Les objectifs sont clairs, ils sont écrits, ils sont affichés.
Les objectifs sont clairs, on sait quoi faire. Donc il faut que le gouvernement se rencontre à période régulière et qui regarde les données, un peu comme on fait pour la crise du Covid. Là. Ouais. On regarde les données, on fait le suivi. Si on n'est pas au bon niveau, on remonte, on évalue. Pour être efficace.
Ouais, ce rapport, vous l'avez remis au Premier ministre lundi, avant de le rendre public donc mardi. Quand vous rencontrez justement Jean Castex ou Emmanuel Macron, d'ailleurs, vous avez vraiment le sentiment qu'ils sont concernés par ce qui se passe sur la planète aujourd'hui?
Oui, en fait, on a le sentiment qu'ils comprennent de quoi on parle. Et on a quand même passé une heure avec le Premier ministre lundi, pratiquement une heure. Et du coup, on discute nos recommandations. Mais après, on a le sentiment que c'est pas la priorité numéro un. Qu'il y a d'autres enjeux. Bien sûr, il y a des impacts sur la population. C'est pour ça qu'il faut se préparer.
Ouais. Mais c'est pas ça. C'est pas sidérant, ça, que justement, ce soit pas pour un État la priorité absolue aujourd'hui, pour tous les États du monde d'ailleurs?
Mais la priorité absolue, en fait, il faut que la réponse au réchauffement climatique, elle s'insère dans les politiques gouvernementales de tous les jours. Mmh. Donc, il ne faut pas prendre des décisions de l'économie d'un côté et des décisions climatiques de l'autre côté. Il faut que tout ça, ça revienne ensemble et ça soit intégré.
Mais en ce qui concerne la France, quand vous avez vu, par exemple, la loi sur le climat adoptée il y a maintenant quoi, 2-3 mois, est-ce que, pareil, encore une fois, vous vous êtes dit, c'est à la hauteur des enjeux et de ce qui est en train de se passer? C'est dans le monde en plus, hein, pas juste en France, heureusement.
Donc, la loi climat, donc elle nous avance, mais non, elle n'est pas à la hauteur des enjeux parce qu'on l'a évaluée, on a évalué les politiques en place dans notre rapport. Et on montre que seule une des 22 orientations de cette stratégie dont je vous parlais sera probablement atteinte. Et 12 ont des incertitudes, en fait, vraiment très importantes. Et 6 ne sont pas encore mises en place. Donc, du coup, non. Clairement.
Corinne Le Carré, donc ce troisième rapport annuel, là, il vient de paraître. S'il fallait le résumer à nos auditeurs qui, évidemment, n'ont pas lu pour la plupart, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Il y a des bonnes choses. Bon, s'il faut prendre les choses positives, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre quand même en France.
Oui, voilà. La baisse en émissions, elle s'est accentuée, bon, légèrement quand même. Mais on commence à voir ce qui marche. Il y a des secteurs qui avancent.
Lesquels?
Et qu'il faut accélérer. Donc, les bâtiments. Donc là, on parle surtout du chauffage, l'industrie. Et la transformation d'énergie, donc production d'électricité.
C'est-à-dire qu'on émet moins de gaz à effet de serre dans ces secteurs-là.
Exactement, on émet moins dans ces secteurs, pas encore assez rapidement, mais on sait qu'il y a des choses qui marchent et on sait où appuyer pour aller plus vite.
Là où ça fait mal, c'est toujours les transports.
Ben exactement, les transports, le plus grand secteur émetteur en France, donc ça pollue beaucoup, surtout la voiture individuelle. Mmh. Et là, du coup, il n'y a pas eu pratiquement pas d'évolution avant la crise du Covid-19. Bien sûr, qui est temporaire. Et du coup, là, on a vraiment besoin d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus large là-dessus.
Ce secteur, il représente quoi, justement, dans l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre?
31%.
C'est énorme.
C'est énorme.
Et la voiture individuelle, c'est la moitié de ces 30%.
Oui, c'est 60% même.
Et le reste, pardon, parce qu'on parle souvent beaucoup de l'aviation, est-ce que l'aviation représente une grosse part de ces 31% ou pas?
Donc, l'aviation, c'est quelques pourcents de ces 31%. Ben, c'est quelques pourcents des émissions en France. Donc, 5% environ. Mais l'aviation, en fait, ses émissions montent. Et donc, c'est ça le gros problème.
Parce que le trafic augmente ?
Oui, exactement. Mmh. Parce que le trafic augmente. Mmh. Et donc, du coup, c'est vraiment ça le gros problème avec l'aviation, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, franchement, sur ce secteur. Mmh.
Notre homme en vert, Renan Moinet, du duo La Botanique, a une question à vous poser, Corinne Le Carré.
Oui, moi, en tant qu'ingénieur agronome, j'aimerais vous poser une question concernant le monde de l'agriculture. Puisque finalement, il y a une réforme de la PAC qui est en cours et on voit qu'il n'y a pas du tout de baisse des émissions de CO2 dans ce secteur-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait. Donc, c'est le deuxième secteur qui bloque, justement, avec les transports. C'est le secteur de l'agriculture. En plus, on a comparé avec les voisins et nos voisins européens. Et en fait, ces deux secteurs, transport et agriculture, ils n'avancent pas nulle part. Donc là, effectivement, il y a un gros problème d'ambition. Dans le passé, cette stratégie de la France, elle n'avait pas beaucoup d'ambition. Au niveau de l'agriculture, ils ont suivi leur trajectoire dédiée, mais il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, là, il faut vraiment pousser ce secteur pour avoir l'agroécologie, pour avoir de l'agriculture de précision, pour stocker le carbone dans les sols. Et si on étend un peu plus au niveau de la forêt aussi, ça ne va pas très bien avec le stockage de carbone dans les sols.
Corinne Le Carré, il y a cet objectif de l'Union européenne aussi qui a été augmenté. Donc ça, c'est bien. L'idée, c'est de réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre, 55% d'ici 2030, ce qui fait que la France va avoir vraiment du mal à suivre.
Voilà, donc là on disait 1,9% de baisse en émissions cette année. Il faudrait aller à plus de 3% très très vite d'ici quelques années. Là-dessus, l'Union européenne augmente ses objectifs, donc il faut que la France elle ait même plus que ses objectifs actuels. Par contre, élément très positif, ça veut dire qu'il y aura toute une dynamique européenne qui va se développer avec des nouvelles réglementations, des nouveaux financements.
Oui, mais quand on voit, pardon, ce dont parlait Renan Moinet à l'instant, la PAC, la politique agricole commune, qui est en ce moment en train d'être négociée et qui ne va pas augmenter les aides, par exemple, pour l'agriculture biologique. Est-ce que ça, ce sont de bons signaux qui sont envoyés par l'Europe, en l'occurrence?
L'Europe, elle va sortir le 14 juillet son paquet de mesures pour répondre à cette nouvelle ambition. Donc, il faudra voir à ce moment-là qu'est-ce qu'ils ont au niveau de l'agriculture.
Mais la PAC prend pas du tout
cette direction. Effectivement, c'est à l'intérieur, c'est au sein des négociations pour la PAC que ça se joue, mais aussi les négociations pour la PAC et ensuite l'implémentation de toutes ces mesures qu'elles mettent dans la PAC, parce que certaines ont besoin d'avoir beaucoup plus de précision.
Ouais, vous suivez ça de près, du coup, Renan? Vous avez quel âge, pardon, de vous poser la question?
J'ai 30 ans, moi.
30 ans, et donc, en tant que botaniste aussi scientifique à la base, c'est vraiment quelque chose que vous suivez, vous, les politiques agricoles communes, européennes, françaises?
Le monde de l'agronomie continue à nous passionner, même si on a pris la tangente vers le monde de la culture, mais nous, c'est vraiment notre volonté de faire le lien entre les deux. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau de la politique agricole commune, et plus particulièrement ce que la France met en place, c'est un peu inquiétant concernant le développement de la bio, qu'on sait moins émettrice de gaz à effet de serre.
Corinne Le Carré, l'adaptation, c'est aussi aussi un des mots-clés finalement de ce troisième rapport du Haut Conseil, oui. Parce qu'il y a effectivement tout ce qui s'accélère et le fait de devoir s'adapter parallèlement à ces changements, à ces modifications de l'environnement.
Voilà, en parallèle effectivement, parce que tant qu'on n'a pas la neutralité carbone complètement sortie des émissions fossiles, le climat va continuer à se réchauffer. Et donc, il y a des impacts sur les individus, sur les biens, les infrastructures. Donc, il faut regarder. Maintenant, on a eu des grosses avancées au niveau des données climatiques. Mm-hmm. Donc, il faut regarder au niveau régional. Il faut prioriser quel secteur. L'agriculture est très, très impactée par le réchauffement climatique. Les forêts, le tourisme de montagne en particulier, l'assurance risque. Donc, on a besoin d'avancer là-dessus.
Mais est-ce que vous pouvez juste rappeler l'impact de la France dans le monde sur les gaz à effet de serre, parce que ça reste très minime?
Oui, environ 1% des émissions mondiales, c'est l'impact de la France. Mais la France, déjà, elle a tout un impact historique. Elle a son empreinte carbone qui augmente ses émissions de 50%. Et bien sûr, il n'y a pas que la France qui travaille sur la réponse au réchauffement climatique. Il y a toute l'Europe. Il y a maintenant plus de 100 pays qui ont un objectif de neutralité carbone, y compris la Chine. Donc, on avance au niveau international, ouais. Et la France, elle a besoin de faire sa contribution.
Qu'est-ce qu'il va faire le Premier ministre de votre rapport, alors, Corinne Le Carré? Ça sert à quoi, au fond, de passer autant de temps à lancer ces messages qui sont reçus par une partie de la population, mais moins par nos politiques, visiblement?
Ben, ce que j'espère, ce que nous espérons qu'il va faire, c'est que le Premier ministre est en train de mettre en place des plans d'action par ministère et qui va prendre en charge le suivi et le pilotage de ces plans d'action comme il se doit. Il y a 10 ministères qui ont reçu des lettres de mission et voilà, c'est à lui de coordonner tout ça.
Ouais. Est-ce qu'il y a une idée aussi de mobiliser encore plus? Est-ce que vous y réfléchissez, ça? Comment on mobilise les gens au quotidien? Comment on les touche vraiment dans ces questions?
Absolument. D'ailleurs, le gouvernement et le Premier ministre, le président en particulier, ont besoin d'envoyer des signaux vraiment très très clairs. Par exemple, en ce moment...
Ils ne sont pas clairs pour l'instant. Hein.
Non,
on l'a vu avec la loi climat, ce n'est pas clair du tout. Hein.
Exactement. Juste pour donner un exemple, le retrait des véhicules thermiques, donc les voitures conventionnelles, aujourd'hui en France, il est fixé à 2040. Mais c'est beaucoup trop loin, 2040. On ne peut pas encore vendre des voitures en 2040
à
pétrole.
Pardon, mais pour rebondir sur ce que disait Mathieu, il y a une partie de la population qui aujourd'hui nous dit de toute façon, moi je n'ai pas les moyens de m'acheter un véhicule électrique. Et
absolument,
ça, c'est énormément de gens. Donc ça vient quelque part contraindre et mettre en opposition une grosse partie de la population.
Oui,
comment vous faites
absolument
face à ça?
Donc déjà, il faut avoir des subventions pour les véhicules électriques. Plus on en vend, plus le prix va diminuer. D'ailleurs, il a diminué très très rapidement récemment.
Ça reste cher.
Et il n'y a pas que les véhicules électriques. Du coup, il y a les transports en commun, il y a les transports actifs. Et ensuite, il faut aussi accompagner les gens qui travaillent pour les entreprises qui produisent ces voitures thermiques aujourd'hui pour basculer vers les voitures électriques. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de pilotage par le Premier ministre, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui seront touchés, certains de manière positive, mais certains de manière négative, et il faut anticiper tout ça.
Merci en tout cas, Corinne Le Carré. Troisième rapport annuel donc du Haut Conseil pour le Climat. Vous avez un site internet où on peut lire, évidemment, avec une synthèse.
Hautconseilclimat.fr.
Voilà, pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus. Vous restez avec nous, il va se passer plein de choses dans cette émission.
France Inter. La Terre au carré.
Comme tous les vendredis, on s'arrête dans l'univers d'Olma. 29e épisode consacré cette semaine au peuple des microbes avec le biologiste Samuel Alizon. En voici un petit extrait.
Ici, il y a des centaines de microbes enfermés dans des boîtes. Au-dessus, il y a des microscopes. Samuel, qu'est-ce que c'est qu'un microbe au juste ?
Un microbe, ça veut dire un organisme qui est si petit qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Il y a les virus, mais il y a aussi les bactéries et même les levures ou des champignons. Ils sont partout dans notre environnement, ils sont partout sur notre corps déjà en permanence. Et parfois, ils vont pouvoir rentrer dans les cellules quand on a des petites blessures, quand on tombe, quand on saigne. Et tous les êtres vivants, les plantes, les champignons, les chats ou même les chiens comme Philippine, peuvent être infectés par des microbes.
29e épisode du podcast Olma, donc, que vous pouvez télécharger gratuitement sur franceinter.fr pour retrouver donc les aventures de la machine de la connaissance. Et sachez que pendant tout l'été, eh bien, vous aurez de nouveaux épisodes tous les 15 jours avec des invités surprises. Dans un instant, l'âge du sélacanthe, le centenaire du poisson venu de la préhistoire. Ce sera juste après Billie Eilish.
China to be.
C'était la voix de Billie Eilish.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
C'est un poisson massif, il fait 2 mètres de long, il pèse plus de 100 kilos. Il a des écailles énormes qui, en tout point de son corps, se chevauchent de 3 épaisseurs. C'est une armure qu'il a sur la tête. Il faut pas oublier qu'il vivait à une époque où la mer était infestée de dinosaures marins, de requins géants.
Et ce poisson, c'est le sélacanthe dont nous parlons dans ce club. Et c'était la voix du biologiste et photographe Laurent Balesta que nous entendions. Poisson mythique des grandes profondeurs, tout droit sorti de la préhistoire, que l'on croyait même pendant un moment disparu. Eh bien, ce poisson fait toujours l'objet de recherches et de découvertes. Et la dernière en date concerne son âge avec une étude de l'IFREMER et du Muséum National d'Histoire Naturelle. Marc Herbin, vous avez plongé avec Laurent Balesta pour aller à la rencontre du sélacanthe?
Oh que non, on a laissé Laurent faire ça parce qu'il le fait très bien et puis c'est un professionnel. On plonge pas à moins 120 mètres de fond sans être professionnel, c'est vraiment trop dangereux.
Et vous étiez où pendant les plongées alors ?
On était dans les Zodiacs au-dessus et puis on avait bien mal au cœur. Mais non, on était avec lui chaque jour, on le suivait.
Ouais. Et on le trouve dans quelle zone le sélacanthe, dans quelle mer sur le globe ?
Alors, il y a deux espèces actuellement, on a identifié deux espèces de sélacanthes, une qui vit dans le détroit du Mozambique, donc l'est de l'Afrique, entre l'Afrique et Madagascar, et puis une autre espèce qui vit en Indonésie.
Et pourquoi ce poisson est aussi mythique alors, Marc Herbin ?
Alors, il est mythique, mais il n'est pas préhistorique. Là, il faut que je fasse une petite correction. Ils sont aussi préhistoriques que nous. En fait, ils ont des ancêtres qui ont beaucoup évolué, comme les oiseaux, certains oiseaux, certains mammifères. Et en fait, ils sont absolument pas préhistoriques. Ils ont des caractères qu'on retrouve chez les fossiles, mais ils sont pas préhistoriques. Alors, qu'est-ce qui est exceptionnel chez lui, c'est que c'est un animal, on connaît parfaitement l'anatomie, mais on ne connaissait absolument pas ni l'âge, ni la période de gestation, ni comment il s'alimentait, où il se reproduisait. Donc il y a encore beaucoup de choses à explorer chez cet animal, et en particulier son écologie.
Ouais, mais il fréquente les eaux du globe depuis extrêmement longtemps quand même.
Alors il fréquente toutes les eaux du globe depuis très longtemps, en effet.
Mais combien de temps, alors? Depuis quand?
Alors, il est apparu, les premiers membres de cette famille des sélacanthes sont apparus il y a 400 millions d'années, et on pensait qu'ils avaient disparu autour de 68 millions d'années. Et en fait, il y a des espèces qui sont qui sont adaptés au changement climatique et qui, en fait, ont dû sûrement se réfugier dans les grandes profondeurs, puisque avant, ils pouvaient vivre aussi bien en surface que dans les lagunes, que dans les estuaires.
Alors, Kélik Mahé, comment vous avez fait pour calculer l'âge du sélacanthe? Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'était la grande question, savoir la longévité, connaître la longévité de ce poisson. Comment vous avez procédé avec les frémères et le muséum, alors?
Les écailles, en fait. Les écailles, ça marche un peu comme un arbre. Quand on coupe un arbre en deux, on voit des cernes et on peut compter donc les stries et compter l'âge. Et donc, sur une écaille, ça marche pareil. Donc, on est allé regarder l'âge sous des écailles, mais donc sous un microscope.
Et alors, vous êtes-vous spécialiste de la croissance chez les poissons? On appelle comment, d'ailleurs, cette spécialité?
Ah, c'est un mot assez barbare, c'est la sclérochronologie.
Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je voulais vous l'entendre nous le dire, exactement. Et alors donc, vous avez calculé, parce que Laurent Balesta le disait tout à l'heure, il y a une épaisseur d'écailles qui est très impressionnante, c'est ça, sur ce poisson, ça fait comme une armure en fait, hein, une épaisseur importante, c'est toujours le cas aujourd'hui?
Alors, c'est des écailles qui sont très très impressionnantes de par leur taille, parce que c'est des écailles de grande taille, si on compare par rapport à un poisson comme le bar, par exemple. Donc, c'est des écailles qui sont très grandes et surtout très épaisses.
Ouais.
Maintenant, on peut travailler dessus exactement comme une écaille qui serait comme le bar, donc beaucoup moins épaisse.
Bon, alors, il a quel âge, ce poisson, alors, maintenant? Vous nous l'avez dit tout à l'heure, il est centenaire, mais précisez un petit peu les choses, quand même, sur sa longévité.
Alors, On a regardé, en fait, donc il y a une quarantaine d'années, on croyait que le sélacanthe vivait jusqu'à une vingtaine d'années, 20-25 ans. Et donc là, ce qu'on a montré, c'est que le sélacanthe vit une centaine d'années, mais on est allé regarder aussi d'autres informations. La première information, on est aussi allé regarder les écailles donc d'embryons, et donc ça nous a permis de savoir que finalement le temps qu'il passait dans le ventre de la mère était de 5 ans. Donc ça veut dire qu'il avait une gestation de 5 ans.
Oui.
Ce qui le place clairement sûrement numéro 1 parmi les espèces.
Parce que c'est combien, enfin c'est difficile de se rendre compte et de faire une moyenne de gestation chez les poissons, mais par exemple un requin, c'est une gestation de combien de temps en comparaison?
Les requins, c'est ceux qui auront clairement la gestation la plus longue, mais ça va se compter en quelques mois. Après, il y a des requins de grand fond qui vont aller jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi, mais 3 ans, 3 ans et demi, c'est parmi déjà les requins qui ont déjà le top de la gestation la plus longue. Par exemple, un éléphant, c'est 2 ans, si ça peut vous donner une idée.
Ouais. Alors Marc Herbin, du coup, cet âge vénérable quand même de ce sélacanthe, un centenaire, ça vous a surpris ou pas?
Oui, parce qu'en fait, mes anciens professeurs qui avaient fait les premières études donnaient, comme disait Kélig, 22 ans. Donc quand on a vu que c'était multiplié par 5, ça nous a quand même pas mal étonnés. Et quelque part, ça allait quand même mieux avec ce qu'avait pu m'expliquer Kélig sur le métabolisme. C'était pas possible qu'un animal... avec un métabolisme lent, ne vivent que 22 ans et que ça devait aller bien plus loin.
Ouais. Et Kélig Mahé, on trouve beaucoup de poissons centenaires dans les eaux du globe ou pas?
Alors des poissons centenaires, on en trouve parmi des espèces de grand fond. Donc tout de suite, ça limite en fait le nombre d'espèces. Mais il y a des espèces comme par exemple l'empereur, un énorme poisson rouge qui a été pêché en Ouest-Écosse, qui clairement, lui, peut atteindre des âges de 100-120 ans.
Ouais.
Mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Les poissons, habituellement, c'est plutôt de l'ordre de 20 ou 30 ans.
Et vous l'avez dit, il y a une corrélation entre le fait qu'ils sont dans les grands fonds et qu'ils sont tous avec des espérances de vie assez longues. Comment ça se fait? C'est qu'ils sont plus protégés de certaines attaques ou de certaines choses? Le manque de lumière, justement, les aide? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont... plus ils vivent profond, plus ils vivent longtemps, en fait?
En fait, c'est pas tant, il y a une corrélation, mais c'est pas tant la profondeur qui fait que ils vivent longtemps, c'est plus le métabolisme des poissons et qui fait que on a affaire à des poissons qui sont lents, qui prennent le temps.
Oui, mais à cause de quoi? À cause du fait qu'il n'y ait pas de lumière? À cause de quoi?
À cause, par exemple, de la nourriture, de la température, de tous ces facteurs qui font que nous, on mange bien en surface et que, au fond, ils ont tendance à manger un petit peu moins que nous.
Oui. Marc Herbin, pour terminer, ces poissons sont quand même assez compliqués à croiser, hein? C'était un vrai pari au départ pour Laurent Balesta d'essayer d'aller les voir.
Ah oui, c'était un réel pari. Et heureusement que Laurent était là pour pouvoir filmer les salacantes, parce que comme je disais tout à l'heure, de jour, c'est des animaux nocturnes, et de jour, ils sont dans des cavernes, donc ouais. Il est impossible de les voir se déplacer sans avoir un super plongeur qui va filmer les salacantes dans leur milieu.
Bon, en tout cas, c'est promis, je ne parlerai plus jamais de poissons préhistoriques, mais de poissons vénérables et centenaires pour évoquer le salacante. Donc, c'était à l'occasion de cette étude que vous avez publiée ces derniers jours avec l'IFREMER et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci beaucoup à tous les deux.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ils sont nantais, ils sont venus spécialement pour la Terre au carré, ils ont même garé leur petit van, je crois, dans la maison de la radio, c'est ça ?
Juste devant, ouais, c'est ça.
Voilà, Ronan Moinet et Thomas Coccini du duo La Botanique. Alors ça fait un bout de temps, ça faisait quelques jours qu'on avait le vinyle.
On a été un petit peu, reçu beaucoup de vos disques, on va dire. Vous avez une attachée de presse très
efficace.
Et très, efficace,
voilà.
Efficace, voilà. Ouais.
Donc on a voulu écouter, effectivement, de quoi il s'agissait.
Persévérante, j'allais dire, voilà, cherchez, merci.
Et ça s'appelle Expression végétale, c'est un 9 titres avec un concept vraiment intéressant parce que votre histoire, elle est vraiment intéressante parce que vous ne vous contentez pas de chanter des chansons sur les plantes, mais vous avez un vrai lien, on l'a compris depuis tout à l'heure. Racontez-nous votre parcours, vous qui êtes habillé en vert là pour l'occasion. Qui commence, Thomas ?
Eh bien, avec Ronan, on s'est rencontrés durant nos études d'ingénieur agronome à Toulouse. On s'est d'abord entendu sur nos passions pour la musique commune. Et puis, petit à petit, on a lancé ce projet musical qui s'appelait La Botanique et qui était un duo rap. Ouais. Et on s'est beaucoup retrouvés sur notre passion pour les documentaires scientifiques, notamment la série L'Aventure des Plantes de Jean-Marie Pelt,
ah oui.
Le Monde du Silence de Jacques-Yves Cousteau. C'était vraiment nos références. Et puis, je crois qu'on les mettait un peu de côté. Ça ne nous a pas empêché de continuer à développer notre projet. La nature était toujours en filigrane dans nos créations. Ouais. Et là, il y a 2 ans, on a fait la rencontre d'un botaniste émérite du Jardin des Plantes, Philippe Ferrat, qui nous a raconté pendant 3 jours des histoires passionnantes sur un herbier local qui s'appelle l'herbier de l'Armorique. Et c'est cet album Expression ouais. Végétale.
Le jardin de Nantes, quand même, faut le dire. Hein.
Tout à fait.
C'est le jardin botanique de Nantes. Ronan, je crois que vous avez passé du temps au Pérou, c'est ça, autour d'une fleur particulière ?
Ouais, en fait, c'était juste avant notre rencontre avec Thomas. J'étais en études d'agronomie, donc, et j'ai passé 1 an au Pérou, et plus particulièrement 3 mois dans une réserve qui s'appelle le Santuario Nacional de Calipuy.
Bien.
Qui
parle bien espagnol.
Qui est, en fait, il a été fondé pour la préservation d'une fleur qui s'appelle la Puya Raimondi.
Ouais.
Donc, c'est une grande fleur qui, au bout de 80 ans, fait une inflorescence qui peut atteindre 5 mètres, 6 mètres de haut et qui fait des milliers et des milliers de fleurs et donc des millions de graines qui se répandent dans ce parc. Mmh. Et donc, le travail que je menais était de faire le lien entre les agriculteurs qui étaient sur la zone et les écologues qui voulaient préserver ouais. cette ressource.
Alors, vous allez chanter en live dans un instant. Avec vos plantes, on va tout expliquer, mais quand même, un extrait déjà de l'album pour se mettre un petit peu le style de votre musique dans l'oreille. C'est donc extrait de Expression végétale. C'est le titre 4 Monstera DX7.2.
Été 2021. Début de l'expérience DX7.2, tentative numéro 15. Avec le professeur Lagraine, nous pensons avoir mis au point une méthode permettant le dialogue avec l'ensemble du règne végétal. Note interne. Si tel est le cas, la nouvelle devrait faire l'effet d'une bombe pour l'ensemble de la communauté scientifique. Mais pour le moment, nous restons prudents. La presse ne doit pas être au courant. Les tentatives numérotées 11 à 14 ont montré, lors de stimulation sonore via des synthétiseurs polyphoniques, l'émission d'organiques de contact dans la sève élaborée transitant dans le phloem. Plus clairement, l'analyse des données nous a permis de capter le message suivant.
Je suis vivante. Je suis.
Extrait de cet album Expression végétale. Alors ce titre, il faut en dire un petit mot parce qu'il raconte en fait votre histoire hein, sur le projet. Est-ce qu'il y a de la science au fond sous cette histoire de plantes et de musique ? C'est un peu ce que vous nous racontez là. Hein ?
Il y a de la science, ouais, il y a des cours de biologie, il y a une histoire de phloème, d'organique de contact. Et en fait, sur chaque plante de l'album, on traite d'une plante. Et là, c'est sur Monstera deliciosa, ouais, qui est une plante que beaucoup connaissent. Elle fait des grandes feuilles avec des trous, une plante tropicale. Ouais. Et en fait, nous, on a imaginé une espèce d'expérience qui est comme un Frankenstein végétal, finalement, où cette plante se met à nous parler, puisque c'est quelque chose qui anime beaucoup les chercheurs, de savoir si les plantes peuvent parler. Uh-huh. Et donc, nous, on a extrapolé une histoire. C'est vraiment notre démarche, de partir de faits scientifiques et d'y apporter notre subjectivité.
D'accord. Et comment vous avez choisi les plantes, justement, qui font l'album ?
Bah, ces plantes, justement, c'était Thomas, il parlait tout à l'heure de Philippe Ferrard, ce botaniste du Jardin des Plantes de Nantes. On a discuté avec lui pendant plusieurs jours et on a sélectionné les plantes qui nous parlaient le plus et qui résonnaient avec notre histoire personnelle, avec des faits de société, etc. Ce qui...
ouais. Et le DX7, alors est-ce que c'est un synthé, ça ? Un synthé tout à fait particulier, oui. Thomas.
Synthé très célèbre des années 80 et qui perfuse beaucoup nos créations. C'est un synthé digital et qu'on entend dans cet album à plusieurs reprises. Et il a un homonyme, c'est le DX7.2, c'est un synthétiseur un peu particulier. Ouais. Ça avait un peu un nom de protocole expérimental, ça nous plaisait totalement pour cette chanson.
Mais je vous entendais dans un podcast raconter que ce synthé, il servait aussi à faire des musiques de films un peu particulières, c'est ça, dans les années 70.
Très honnêtement, c'est un petit raccourci que j'ai fait, ouais. Parce que c'est une chanson qui s'appelle La Belladone, ouais. Qui parle d'une rencontre en Sicile et qui s'inspire du compositeur Piero Umiliani, qui est assez célèbre pour avoir fait des bandes son de films érotiques des années 70. Ouais. Mais ce synthétiseur vient des années 80, donc. Mais il y a eu du retravail en studio et on a rajouté du DX. Donc voilà, l'histoire est un peu plus.
Tiens, on écoute un extrait de Belladonna.
La Belladonna déambule sur les collines de Sicile. Noire boucle brune, ses cheveux emmêlés emmènent ses pieds nus sous le soleil qui brûle. Sous les parfums de la garrigue, sublime.
Ça raconte quoi l'histoire de la Belladonna, alors?
Donc ça raconte l'histoire d'une femme qui a des pupilles noires. Et ça fait un parallèle avec l'Atropa belladonna, la plante, qui a été utilisée à la Renaissance par les femmes italiennes. En fait, elle prenait ses fruits. C'est une plante qui est de la famille des tomates, des solanacées. Et donc, elle prenait ses fruits, elle le pressait, elles obtenaient un liquide qui contenait de l'atropine et qui permettait de dilater les pupilles. Donc, les femmes avaient un regard plus séduisant avec ces pupilles dilatées.
Donc, la belladonna.
La belladonna, exactement.
Vous allez vous installer pendant qu'on discute aussi avec Corinne Le Quéré pour nous interpréter votre live dans un instant.
Justement, Corinne Le Quéré, la musique et l'art en général, est-ce que ça peut être de bons alliés pour sensibiliser à ce qui se passe sur notre planète ?
Tout à fait. La communication sur les changements climatiques, ça passe par plein de médias, y compris la musique et l'art. Et avoir une communication qui soit beaucoup plus large, comme là, à travers les plantes, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'étendre à beaucoup plus de personnes.
Justement, l'IBES qui associe maintenant clairement la biodiversité à la question du climat, ça aussi, c'est un pas en avant quand même pour prendre en main un peu toutes ces problématiques.
Oui, tout à fait. L'IBES qui fait des synthèses sur la biodiversité, sur les écosystèmes, toutes les quelques années, comme les synthèses du GIEC sur le climat, et qui se rencontrent régulièrement avec pour croiser les recommandations sur la biosphère, des recommandations avec le climat.
Renan et Thomas, donc du duo La Botanique, vous êtes en place, les gars ? Tout est prêt.
Est-ce que vous pouvez juste nous dire quand même, il y a des plantes devant vous, à quoi elles servent ces plantes ? On dirait qu'il y a des jardinières au-dessus de votre synthé, si je dois le résumer comme ça, Thomas.
On a mis des photos d'ailleurs sur le compte Instagram et Facebook de l'émission en story pour voir de quoi il s'agit.
Je précise que ce n'est pas juste de la déco, ce sont nos vrais partenaires de scène, c'est-à-dire que je me sers de ces plantes comme d'instruments de musique et notamment de déclencheurs de son. J'utilise un système électronique qui est connecté à des petites électrodes qui sont dans le substrat, donc la terre de ces plantes.
C'est quoi comme plante ?
Alors, on a un chlorophytum, on a une fougère, on a une prêle. Voilà, il y a une diversité de plantes qui partagent la conductivité électrique parce que ce système est basé sur ce principe de conductivité électrique, à savoir que tous les êtres vivants qui contiennent dans leur tissu de l'eau conduisent l'électricité. Et donc, je suis branché d'un côté à une carte électronique qui elle-même est branchée aux plantes. Et lorsque je touche la plante, ça
incroyable.
Fait contact.
Je témoigne qu'il a vraiment juste touché la feuille de la plante et... C'est incroyable.
La plante fait de la musique.
Alors, c'est une interprétation artistique.
Voilà.
Alors, le principe est tout à fait scientifique. C'est un principe de physique qu'on apprend sur les bancs du lycée. Mais c'est une interprétation. J'ai travaillé avec une vocaliste nantaise qui s'appelle Jordan Sonal et que je salue, qui a prêté sa voix pour les plantes et notamment ce morceau digital qu'on va vous interpréter.
Eh bien, on l'écoute alors. C'est digital parti. Avec le duo La Botanique. Sur France Inter.
Surtout celles qui lui paraissent farfelues, luisantes et paresseuses. Car Mélanie a un faible pour l'heure, manière de prendre leur temps. Celui qui passe, celui qui s'étend, lentement qui regarde les saisons qui poussent, sans faire de bruit ni de secousse. Mélanie est piquée par les digitales, celles qui s'étendent, qui dans le ciel s'étalent. Beauté hautaine et toxique, teintée purple quand son cœur s'agite. Elle sait qu'il ne faut pas les toucher, de peur de ne pouvoir s'en séparer. Mais elle s'en moque, elle prend le risque, peu importe que le poison se glisse. Les digitales sont d'immenses fleurs, le digital est entré dans son cœur. Les digitales sont d'immenses fleurs, le digital est entré dans son cœur. Regarde les fleurs sur l'écran de son smartphone. Il la nargue et l'empoisonne car il a dérobé le nom des fleurs qu'elle avait tant aimées. Chaque seconde dans ce monde sans matière l'éloigne un peu plus des digitales. Et sans s'en rendre compte, le virtuel inlassablement s'installe. Les digitales sont d'immenses fleurs, le digital est entré dans son cœur. Les digitales sont d'immenses fleurs, le digital est entré dans son cœur. Mélanie trouve les fleurs obsolètes, ses doigts coincés dans le digital. Même celles qu'elle avait tant aimées sont devenues bien trop banales. Mélanie ne regarde plus les saisons, celles qui passent sont déjà dépassées. Les digitales se sont fait une raison, l'obsolescence était programmée. Les digitales sont d'immenses fleurs, le digital est entré dans son cœur. Les digitales sont d'immenses fleurs, le digital est entré dans son cœur.
Bravo.
Alors là, bravo.
Les digitales.
Merci.
Le duo La Botanique. Voilà, on vous a mis plein de photos, des vidéos.
Est-ce que
sur...
tu peux essayer de toucher les plantes, Thomas, volontiers. Si possible.
Est-ce qu'il faut mettre le capteur? Est-ce que vous aviez le capteur sous la main?
Ah, faut que je le mette.
Il faut se connecter. Voilà. Donc Camille va tester.
Et là, vous avez.
J'ai une sorte de patch.
Voilà, dans le micro.
Patch sur la main.
Voilà.
Et donc là, vous me dites ce que je touche comme plante, parce que ça, c'est quoi?
C'est la prêle.
C'est une sorte de. Ça ressemble un peu à du bambou, on peut le dire.
C'est une plante préhistorique, justement.
Incroyable.
C'est pas le bon terme, vas-y. Vénérable.
Vénérable.
Le chlorophytum.
Fougère.
La fougère.
Bon, ma musique n'est pas géniale, hein.
Vous pourriez lui offrir ça à Noël, hein. Je pense que ça peut lui faire un très très beau cadeau.
Ça peut être super pour les enfants, par exemple.
Voilà.
Bien, justement, on fait beaucoup d'ateliers.
Venez vers les micros, ouais. Les gars, pour pouvoir justement en discuter, pour qu'on vous entende bien, parce qu'il y a une démarche qui est vraiment étonnante et intéressante. Ça vous inspire quoi, Corinne Le Quéré ?
Mais oui, tout à fait. Ça donne envie d'aller dans la nature, en fait. Ouais. C'est vraiment
pour essayer de jouer de la musique avec les plantes.
Voilà, exactement, j'irais bien moi aussi.
Thomas, qu'est-ce que vous disiez alors, oui, finalement, sur...
Oui, je vous disais tout à l'heure que, en parallèle de notre activité de scène, on anime beaucoup d'ateliers avec différents publics et notamment des jeunes dans lesquels on utilise ces systèmes pour
sensibiliser,
pour faire de la musique et raconter l'histoire des plantes, puisqu'on utilise toujours ce prisme du végétal pour les faire écrire, pour les faire composer de la musique.
Mais le rap écolo, c'est un genre en devenir pour vous ?
Nous, c'est pas du rap écolo, c'est de la pop végétale.
Pardon, excusez-moi. Oh là là.
Mathieu.
Alors, j'écoutais un podcast, je vous le disais ce matin, dans lequel vous avez été invité, et vous parliez de l'importance dans votre parcours de l'anthropologue Philippe Descola, c'est ça, Thomas ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un anthropologue qui a réalisé des ontologies de notre rapport à la nature, et notamment il décrit 4 ontologies. Et à travers son livre Entre nature et culture, il questionne notre rapport au vivant. Et actuellement, il y a toute une branche de la philosophie qui questionne ce que c'est que notre rapport au vivant, notre place de vivant parmi les vivants. Mmh. Et c'est aussi ce qu'on raconte à travers cette chanson Monstera DX7.2, où les premiers mots entendus de la plante sont « je suis vivante ». C'est-à-dire nous rappeler que les plantes ne sont pas des meubles, qu'elles sont des êtres vivants au même titre que nous, et que leur donner un nom, c'est déjà leur donner de l'importance.
Ouais. Et vous saviez qu'il était le parrain de la Terre au Carré, Philippe Descola ?
Pas du tout.
Pas du tout. Et en plus, il est en ligne avec nous, et c'est ça votre surprise. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour Philippe Descola.
Bonjour Mathieu Vida.
Voilà Thomas et Ronan donc, qui rendent hommage à votre travail. J'imagine que ça vous touche quand même, parce que cette jeune génération aussi qui s'empare au fond de tout ce que vous étudiez, vous, depuis de tant de décennies, et qui arrive maintenant dans le discours aussi de cette génération, c'est quand même formidable, non ?
Oui, et puis ils le font par d'autres biais que, bien sûr, le travail scientifique est derrière ce qu'ils font, puisque, au fond, c'est fondé, comme il le disait tout à l'heure, sur des éléments de physique qu'on apprend au lycée, mais ils abordent, au fond, le rapport à la nature par d'autres biais, notamment celui de la musique, qui est absolument passionnant. On l'avait fait auparavant pour les oiseaux, par exemple, les grands compositeurs comme Messiaen avaient fait parler les chanter les oiseaux dans leur musique, mais le faire, ou Mozart avant, mais le faire avec les plantes est vraiment remarquable. Moi, j'ai passé quelques années dans une société où les humains dialoguaient avec les plantes, mais ils le faisaient de façon différente. Ils leur chantaient des chansons pour s'adresser à leur cœur, à leur âme, pour essayer d'influer sur leur existence.
C'était les Achuas déjà, Philippe Descola ?
Les Achuas, oui, en Amazonie. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez courant dans le monde amazonien. Et puis les plantes venaient les voir aussi en rêve pour leur raconter des histoires, mais sous forme humaine. Ouais. Et donc il y a un élément anthropocentrique, au fond, dans ce rapport au végétal qui n'est pas présent dans la musique que font les deux musiciens de botanique, et c'est ça que je trouve très intéressant.
Alors Renan et Thomas, je vous laisse, parce que quand même Philippe Descola au téléphone avec vous, profitez-en.
C'est un honneur, je suis presque sans voix.
C'est Renan qui parle.
Mais c'est vrai que nous, dans notre travail, on adore réfléchir aux plantes, parce que finalement, on se met souvent à leur place et on se demande comment elles peuvent nous percevoir. Mais à chaque fois qu'on fait ça, on leur attribue des caractères humains, donc c'est quelque chose qui est assez difficile finalement. Et malgré, elles sont immobiles, elles ne parlent pas, mais on essaye de rentrer en contact avec elles. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça finalement.
Oui, non, mais je pense que c'est très intéressant. Elles sont sensibles, les plantes, sinon à la musique au sens classique du terme, mais en tout cas à des vibrations, à des fréquences. Elles communiquent entre elles, et donc on sait maintenant depuis quelques années beaucoup plus que ce qu'on savait auparavant sur la capacité des plantes à fonctionner comme des agents, même pas, alors, dire des agents intentionnels comme des humains, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, à réagir à des situations, à communiquer entre elles, et à être sensibles à des formes sonores, à des messages qu'on leur adresse. Et ça, c'est vraiment un progrès considérable. Et ce que font nos deux musiciens est tout à fait dans la droite ligne de cette perspective.
Bon, bah, c'était un petit cadeau pour vous,
merci.
Renaud et Thomas.
C'est un honneur.
En souvenir de ce voyage à Paris, donc avec Philippe Descola, qui est le parrain, je rappelle, de la Terre au Carré. Ça va bien, parrain, d'ailleurs? Vous préparez quoi, là, pour la rentrée?
Ça va très bien. Je suis face à des plantes, justement, dans le sud-ouest de la France, et c'est un plaisir. J'ai des boutons d'or, j'ai des coquelicots, j'ai des bleuets, enfin, c'est formidable.
Corinne Lequéré, un petit mot de Corinne Lequéré pour Philippe Descola?
Je vous remercie déjà. Pour le climat, les plantes, c'est hyper important. Il faut vivre exactement, il faut qu'elles s'intègrent à l'intérieur du climat, il faut qu'on les utilise et qu'on les utilise bien en harmonie.
Cher parrain, je vous laisse le mot de la fin, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, vous me demandez ce que j'étais en train de faire. Eh bien, je corrige les dernières épreuves d'un livre qui va sortir en septembre, qui s'appelle « Les formes du visible », et qui portera pas sur la musique, mais sur les images visuelles, iconiques.
Ce sera au début septembre, et ce sera au Seuil. Voilà. Vous viendrez nous en parler, c'est promis. Et puis en attendant, je crois que Renan et Thomas vont vous envoyer leur album directement dans le Lot, pour que vous puissiez découvrir Expression végétale et la botanique. Merci beaucoup, Philippe Descola.
Un grand merci. À bientôt.
À très bientôt. Voilà, Renan et Thomas, merci beaucoup. Il y a des dates, hein. Vous allez jouer dans les Jardins des Plantes, Loire-Atlantique et ailleurs en France, très vite.
Tout à fait. On a plutôt là pour le moment des dates dans l'Ouest, mais nous allons jouer au Théâtre de Vanves le 17 juillet avec le Théâtre de Vanves au Parc Pic. Voilà, donc c'est une date pour la région parisienne.
Et il y a toutes les dates de toute façon sur notre site internet. L'album qui sort évidemment sur les supports habituels, en CD et en vinyle. Voilà.
Très beau vinyle.
Merci beaucoup.
Merci.
Et on se quitte avec.
Pur. Que dit la nature ? Épisode 17.
2 minutes 30 de Nature Pure, le podcast et vodcast de France Télévisions. On est en immersion grâce au son enregistré par l'audio-naturaliste Fernande de Roussen. Écoutez cette scène, imaginez où elle se passe. Imaginez de quoi il s'agit. En tout cas, pour avoir la réponse, eh bien, il vous suffit d'aller sur le podcast de France Télévisions Pure, Que dit la nature, voilà. Et vous saurez tout, vous aurez même la réponse concernant cette séquence. Le lien, évidemment, est disponible sur la page de La Terre au Carré.